Heureux qui comme Ahmed, Shakib, Stéphanie et Jérémy ont fait un long voyage. Une traversée le corps poussé à bout à la recherche de soi. Le film Mimosa se déroule dans le désert et nous mène en haut de la montagne, où comme toujours l'homme s'interroge. Face au désert marocain, le grand froid de l'Antarctique et la quête d'aventuriers qui érige la performance en récit. La traversée de nos héros du jour décline l'expérience en mots, en musique, en images pour la faire revivre à l'infini. Le cinéma et l'écriture sont des voyages initiatiques au cœur de la grande table d'aujourd'hui. Dans une deuxième partie, c'est une traversée de l'Atlantique que nous vous proposerons pour faire la rencontre du célèbre éditeur devenu également romancier, Jonathan Galassi. Il est l'heure de se mettre à table. En guise d'entrée, voici l'éphéméride du jour, évocation d'un autre 18 août. Le 18 août 1906, c'était la naissance du cinéaste Marcel Carnet.
Je faisais du cinéma. Qu'est-ce que c'est qu'un métier? Qu'est-ce que c'est qu'un art? Hein? C'est toujours des questions. C'est le monde rempli de questions, vous savez, auxquelles il est difficile de répondre, même si on se les pose à soi-même. Moi, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire, je fais aucune différence entre écrire un livre, travailler pour un film, me promener, dire des choses très désagréables à quelqu'un que je déteste, et beaucoup de choses agréables pour un tas de gens, des inconnus que je connais quelque part, je ne sais pas où. Moi, j'aime beaucoup.
Les questions que l'on se pose à soi-même. Nous allons continuer cette quête philosophique en nous penchant sur l'imaginaire de la traversée. Pour en parler, nous avons réuni autour de la grande table Oliver Lax, réalisateur du film Mimosa, La Voix de l'Atlas. Bonjour.
Bonjour.
Et Stéphanie Jiquel, sportive aventurière polaire et conférencière. Bonjour. Alors, cette aventure, c'est avant tout mettre ses pas dans les traces de ceux qui sont passés avant vous. Oliver Lax, les pas dans le désert.
Effectivement, oui, Mimosa, c'est un film qui se déploie en deux dimensions. Il y a un parcours géographique, c'est une caravane qui traverse les montagnes de l'Atlas. Et en même temps, c'est un voyage intérieur, c'est un voyage initiatique. Les personnages voyagent dans une autre dimension.
Dans plusieurs dimensions, puisque même dans le film, il y a comme un espace-temps un peu flouté avec le temps du désert, qui semble avoir un peu sa propre temporalité, et le temps de la civilisation, des voitures, de la route, qui est comme un monde parallèle.
Exactement, oui. C'est une invitation au voyage, au imaginaire, et avec une forte influence de la tradition. Donc la tradition nous dit que le temps et l'espace, c'est des choses très ambiguës. Donc voilà, le film est très anachronique, on ne sait pas de quelle époque c'est, et très déterritorialisé, c'est le Maroc, mais ça pourrait être un autre lieu, une autre montagne. Les personnages du film sont confrontés à la nature, sont confrontés à tout ce que les supère. Il y a une quête de supération en eux aussi.
Il faudrait d'abord raconter l'histoire à son premier degré. À son premier degré, il y a trois personnages
qui doivent transporter le corps d'un maître qui vient de mourir et ils veulent l'enterrer chez lui. C'était sa dernière volonté.
On va écouter un petit extrait de la mort du Cheikh.
Malik Ahmed.
Hala shfti haja.
Oliver Lax, dès les débuts, se pose des questions à multiples dimensions, à savoir est-ce que l'homme peut traverser la montagne, quel chemin faut-il prendre, que faire de la mort.
Oui, il y a plusieurs dimensions. Il y a ce maître qui, avant mourir, dit « voilà un bon lieu pour faire une sieste ». Il est déjà en train de désacraliser en sacralisant la mort. Enfin,
c'est une métaphore.
Exactement, la sieste, c'est « bon, voilà, je veux me réveiller encore vivant, même si je veux mourir. Enfin, je suis éternel comme être humain. Enfin, je suis une âme éternelle ». Et y a surtout ce caravanier, Ahmed, ce petit brigand, ce petit voyou, qui dit connaître le chemin, mais en fait, il le connaît pas. Il veut seulement tracer sa condition sociale et survivre. Mais en fait, il le connaît. Il est à son intérieur. C'est un film sur quelqu'un qui se donne à son intuition. Sur quelqu'un qui se donne à son flair, que j'imagine. Ma compagne en parlera, j'imagine. C'est quelque chose qu'on expérimente quand on marche, quand on est dans la nature. Il y a un niveau de perception différents qui s'éveillent à ce moment.
Il y a cette surprise, toujours des personnages. On ne sait pas qui va se lancer dans une traversée au fond. Stéphanie Jiquel, rien dans votre biographie ne pouvait laisser imaginer que vous alliez avoir cette idée saugrenue que de faire une traversée de l'Antarctique.
Alors effectivement, rien ne pouvait laisser le présager. C'est vrai que j'ai toujours aimé le sport. Mais là, c'est au-delà. La traversée de l'Antarctique, j'ai éprouvé des choses que je n'éprouve pas sur des courses de longue distance, des courses à pied. C'était vraiment au-delà physiquement et mentalement, puis en termes de préparation, évidemment.
Quelle était l'idée au départ et d'où elle est née, cette idée de traverser l'Antarctique ?
Je suis passionnée quand même par les régions polaires, donc j'avais déjà eu l'occasion d'y aller à pas mal de reprises. En fait, à chaque fois que j'ai des temps libres, je vais dans ces régions. Donc j'ai atteint aussi le pôle Nord, j'ai été au Groenland, au Spitzberg, et un jour, j'étais en Antarctique en 2010 et au retour de ce voyage, j'ai ressenti exactement la même chose qu'ont pu ressentir d'autres explorateurs et je pense notamment à Jean-Baptiste Charcot qui disait que lorsque l'on quitte ces lieux, on n'a qu'une envie, c'est y retourner. Et moi j'ai eu qu'une envie, c'est retourner en Antarctique et voir ce continent, le connaître, l'appréhender, connaître sa réalité parce qu'on peut lire tous les récits qui existent, on peut faire des recherches historiques, on ne peut pas appréhender un lieu tant qu'on n'y a pas été. Et c'est vraiment le cas pour l'Antarctique. Je ne comprenais pas les récits que je lisais. Aujourd'hui, je les comprends d'une autre manière. Je comprends ce qu'ont vécu les premiers explorateurs qui ont atteint le pôle Sud.
Alors, c'est la nature dans ce qu'elle peut avoir de plus extrême. On a la chaleur brûlante du désert d'un côté et le froid de l'Antarctique. Qu'est-ce qu'elle vous inspirait, cette nature, Stéphanie Jiquel ?
Déjà, elle m'inspirait beaucoup de lenteur. Quand on traverse l'Antarctique, il faut accepter d'aller lentement. Et je trouve que c'est bien décrit dans le film d'Olivier. Cette lenteur, il faut l'accepter. Donc, en plus, moi, j'étais encore plus lente parce que j'ai fait le choix de partir sans voile de traction, donc sans l'aide du vent, uniquement avec des skis de randonnée nordique.
Vous avez skié, il faut expliquer ce projet de traversée au départ.
Donc je suis partie d'une barrière, une barrière de Rhône qui se trouve en dehors des limites du continent. Ce sont ces barrières de glace qui entourent le continent avec la banquise. Je suis partie d'une de ces barrières au même endroit que Reinhold Messner était parti en 1989. J'ai ensuite rejoint le pôle sud, 916 km plus loin, et j'ai ensuite rejoint à nouveau la côte pour réaliser une traversée.
Alors marcher sur les traces et marcher sur les traces de Reinhold Messner.
Nous survolâmes la glace. Elle semblait s'étendre à l'infini. Soudain, je vis d'innombrables crevasses. Cela me fit peur. L'angoisse tapie en moi depuis des semaines m'envahit. Comment faire passer les traîneaux de 80 kilos sans casser les ponts de neige? Comment progresser en faisant des zigzags? La distance serait beaucoup plus grande que nous l'avions calculée à vol d'oiseau. J'avais les bras et les jambes paralysés par la panique.
Stéphanie Jiquel, dans cette idée de la traversée, il y a cette idée des traces dans lesquelles on met ses propres pas et des traces qu'on laisse. C'est une métaphore qui revient souvent dans votre récit, que ce soit celui de votre livre, de votre journal, dans ce que vous retenez aussi des journaux qui ont été écrits précédemment sur l'Antarctique et dans votre film.
C'est vrai
qu'on les traces dans la neige.
On laisse des traces. Après, elles s'effacent vite aussi, hein, physiquement. Les traces, dès que la nuit polaire s'installe en Antarctique, il n'y a plus de traces. Hein, donc, elles s'effacent très rapidement. Maintenant, c'est vrai qu'on laisse une trace dans le sens où très peu de personnes aussi sont allées sur ce continent. Et pouvoir rapporter des images, des photos, des images vidéo, c'est déjà une chance. Et je pense que c'est aussi un devoir de partager pour montrer à quoi ressemblent ces lieux qui sont inexplorés. Donc quelque part, on laisse une trace, effectivement.
Qu'est-ce qui représentait pour vous Reinhold Messner ? Vous êtes rentré dans son imaginaire, vous avez lu son journal ?
Alors j'ai lu effectivement le récit de la traversée de l'Antarctique par Reinhold Messner et Fuchs. C'était en 1989, une traversée en kiteski, donc avec une voile de traction. Reinhold Messner est un grand alpiniste, un des plus grands alpinistes au monde, qui un jour a décidé de traverser l'Antarctique, donc de quitter le milieu des montagnes pour appréhender celui des régions polaires. C'est vrai que ce récit m'a souvent fait peur en le lisant, évidemment, parce que Reinhold Messner est une personne qui a accompli beaucoup beaucoup de choses. Et il décrivait l'Antarctique comme étant plus difficile que toutes ces ascensions parce que la durée est beaucoup plus longue. C'est vrai que lorsque l'on part sur une expédition de 2 mois et demi, 3 mois, il y a un moment, généralement c'est après 4 semaines, où on change complètement de façon d'appréhender le décor, aussi parce qu'on manque de nourriture, on est déshydraté, on est faible et on est dans un environnement qui devient de plus en plus fort. Il y a eu beaucoup de décès en Antarctique, il y en a encore aujourd'hui, hein, en janvier dernier, un aventurier qui tentait une traversée est malheureusement décédé après avoir parcouru 1400 km.
Donc, on a d'ailleurs le sentiment que ça fait partie de la traversée, que cette prise de risque, et qu'en réalité, entre le projet artistique ou le prolongement de l'expérience dans ce livre, ce film que vous avez fait, de même que vous, Oliver Lacks, avec ce film qui vous a, qui a nécessité un tournage assez long dans le désert, dans des conditions qui n'étaient pas celles que vous aviez imaginées aussi. Vous avez dû faire les choses vite avec un tournage relativement court.
Moi, j'habitais dans la région. J'ai vécu 4 ans dans une palmeraie proche de l'Atlas, entre l'Atlas et le désert. Et donc, j'ai sillonné cette région pendant toutes ces années. J'avais une envie personnelle de découverte, de transformation. Je pense que la montagne, la nature te transforme. On a une envie très profonde de se dissoudre dans la nature, d'être partie de la nature. Aujourd'hui, on habite un monde très dissocié, un monde de la ville. On a besoin de retourner en orbite, non? Et c'est quelque chose que j'ai cherché un peu. Je pense que ce qui est intéressant du cinéma, c'est quand les obstacles supèrent le réalisateur. Parce que c'est pas ces idées qui restent dans le film, c'est les idées, on va dire que c'est les idées de la nature. C'est la nature qui s'impose.
Mais tout ça se mélange.
C'est le mystère de la nature qui rentre dans le film. Et donc on cherchait un peu des problèmes, on cherchait un peu des obstacles, des camions qui restaient coincés dans des ponts, des événements climatologiques qui nous permettaient en même temps de faire que l'être humain se spiritualise, se dissout dans la nature. Il y a des brumes, il y a de la neige aussi, il y a de la poussière. Et effectivement, ça a été une grosse aventure. Je suis de ceux qui croient que tout ce qui est derrière la caméra, quand il y a une pèlerination derrière la caméra, on le sent dans l'image. Il y a quelque chose qui habite ces lieux, qu'ils n'avaient jamais été filmés. On devait aller en mulet. C'était une équipe de 50 personnes. On a dû construire même des cabanes dans la montagne. On avait l'impression que ces espaces qui n'avaient jamais été tournés et qui effectivement sont habités, que cette énergie allait se transmettre à l'image.
Mais c'est le film qui crée l'aventure. C'est quasiment les démarches inversées qui reviennent au même, c'est-à-dire l'aventure qui donne l'occasion d'une création ou de deux créations. Et vous avez fait un
Exactement.
Film pour vivre une grande aventure. On va en entendre
Exactement.
Quelques extraits.
Nelda. Nelda.
On a pu nous rendre au sijil Massa. كنعرف واحد الطريق من الجبال
ارسلي مع الناس نعطيك عاد الله نوصلو الشيخ سجل المسا
Jbel, la montagne, on entend revenir dès le début du récit. Les récits de voyage, est-ce que Oliver Lacks, est-ce que les récits de voyage faisaient partie de votre imaginaire? Est-ce que c'était partie de votre tradition littéraire, cinématographique?
Oui, ça fait partie de toutes les cultures, de toutes les traditions. Il y a toujours la besoin du voyage. C'est très relié aux religions initiatiques, non? Chercher l'inspiration dans la solitude du voyage, dans l'errance.
Là, vous en faites des héros qui, dès le début, ont une mission. Alors, la mission qui est confiée, c'est la mort, justement, de ce maître. Il va falloir aller l'enterrer. Et il souhaite être enterré là où il a vécu, auprès des siens.
Exactement, oui. Comme je disais avant, ils ne connaissent pas le chemin, mais à fur et à mesure, voilà, ça s'éveille, cette intuition. Et bien évidemment, y a un processus d'ouverture du cœur du personnage principal, non, qui au début du film est un peu sceptique, il fait ça que pour gagner un peu de l'argent, mais à fur et à mesure que il est dans cette nature, dans ces lieux, dans ces espaces, et grâce au miroir, au beau miroir qui l'entoure, parce qu'il est entouré d'autres personnages, de grande innocence, de grandes valeurs, de grande éthique, grâce à ces deux choses, ben peu à peu ce cœur commence à s'ouvrir et commence à se rappeler de ce qui était en lui. Toujours. Et il parvient pas au lieu, apparemment, on ne sait pas s'il parvient au lieu pour enterrer. C'est le lieu que le maître voulait enterrer, voulait être enterré. Mais en tout cas, dans le voyage intérieur, si qu'il accomplit à arriver où il s'était écrit qu'il devait arriver. Non,
c'est le thème de celui qui est meilleur que ce qu'on aurait pu croire au début. C'est un thème. Totalement religieux qu'on retrouve.
Si, c'est l'être humain qui a une inspiration à se supérer, qui est.
Alors c'est ce paradoxal.
C'est belle et c'est ridicule en même temps. Il y a quelque chose d'héroïque et d'absurde et on accueille ces deux choses.
Stéphanie Jiquel, vous, dans votre traversée, on a le sentiment pendant la traversée qu'on retrouve dans le documentaire, puisque vous êtes régulièrement face caméra en train de faire le récit de ce qui va se passer à chaque étape de cette traversée. On a le sentiment que vous vous confrontez à toutes ces questions de l'absurdité de la mission, de sa grandeur, de l'ambition démesurée, du danger.
C'est vrai que dans le film, je reviens souvent sur la question pourquoi. La question pourquoi pour les régions polaires, elle n'est pas évidente parce que c'est vrai que tous les explorateurs qui mettent les pieds en Antarctique ou au pôle Nord ont cette envie irrésistible d'y revenir, mais on n'arrive pas, même quand on y a été, qu'on y a passé autant de temps, on n'arrive pas nécessairement à répondre à cette question du pourquoi. Et c'est vrai que donc je la pose, c'est un peu un fil rouge dans tout le film. Et puis après, évidemment, la question du défi. Puisque réaliser 2045 km en Antarctique, c'était loin d'être gagné. Initialement, je devais faire une traversée de 1800 km et pour des raisons financières, j'ai changé mon point de départ. Et donc, c'est vrai que 2045 km devenait compliqué et donc la question du délai aussi se pose beaucoup dans le film.
On va vous entendre prendre votre départ.
Donc voilà, c'est le début de l'aventure. Ça fait tout bizarre de leur dire au revoir. Il y a plein d'émotions. C'est les deux dernières personnes qu'on a vues. Et puis maintenant, on reverra des gens au pôle Sud dans une quarantaine de jours. Il y a l'océan sous nos pieds. Donc c'est parti, quoi.
C'est d'abord prendre son départ, c'est d'abord se priver des hommes, c'est d'abord se priver des gens qui sont autour de vous et se retrouver seul face à ces immensités enneigées.
Alors c'est vrai qu'on est isolé en Antarctique. Après, c'était pas ce que je recherchais. C'est-à-dire que je recherche pas le fait d'être isolé. Maintenant, c'est vrai que ne voir aucune ville, ne voir aucune construction urbaine pendant 74 jours, c'est extrêmement étonnant. Et quand je suis rentrée à Paris, il m'a fallu un petit temps pour me réadapter. J'ai pris conscience aussi de tout ce que l'homme avait construit et à quel point on était extraordinaire quand on mettait nos moyens pour construire des belles choses.
Cette traversée, c'était pas une traversée solitaire, elle se fait avec Jérémy. Et c'est aussi il y a aussi un autre aventurier. Alors c'est le petit groupe face à la nature quand même. Vous faites ça en petite meute.
Oui, exactement. Donc la nature, elle reste puissante et c'est ça qu'on n'oublie pas quand on traverse ce type de continent. La nature est hostile et je pense qu'il faut être humble face à cette nature parce que il aurait très bien pu y avoir un vent qui nous enlève ou bien on aurait pu tomber dans une crevasse puisque le 14e jour on s'est retrouvé devant une immense crevasse. C'était pas prévu. On cherchait à la contourner et on aurait pu tomber dedans.
Vous, donc, les accidents, vous n'avez pas eu besoin de les rechercher comme Oliver Lack, ils sont arrivés tout seuls.
Ils sont arrivés tout seuls. Alors, il y a eu beaucoup de pépins, des choses qu'on ne voit pas dans le film aussi, des accidents physiques, une rage de dents pour moi qui a duré pendant plus d'un mois. Donc, des choses
une grippe aussi.
Que je n'ai pas pu montrer, voilà. Ouais.
Et justement, le fait d'être à quelques-uns, c'est l'idée quoi, de résister ensemble? Ça aurait été impossible d'imaginer une traversée totalement solitaire?
Alors, des traversées en solo de l'Antarctique, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu Björguland en 1997 en kiteski. Il y a eu une tentative de traversée en début d'année. Henry Worsley aurait été le premier à réaliser une traversée sans voile de traction et sans ravitaillement. Ça aurait été un exploit et malheureusement, il est décédé en cours de traversée. Pour moi, mon objectif n'était pas du tout de faire un solo. J'étais ravie de pouvoir partager avec Jérémy et mon but était de construire une équipe plutôt et de partir ensemble.
Oliver Lax, dans votre film Mimosa, on retrouve cette idée des compagnons qui sont très importants avec, en tout cas pendant une bonne partie du film, ce chiffre magique du chiffre 3. Alors les trois garçons, les trois hommes, les trois jeunes face à la montagne et au désert.
C'est un film sur l'amitié aussi. Ahmed, c'est lui qui dit qu'il connaît le chemin, sans le connaître, il est bien accompagné. Il y a d'un côté Saïd, que c'est un chevalier, quelqu'un qui a un honneur de chevalerie, des très beaux valeurs, qui est un peu le copain du voyou, qui est voyou aussi pour protéger son ami pour qu'il aille pas trop loin. Et après il y a Shakib Ben Omar, que c'est un
celui qu'ils appellent tête de poil,
voilà, qui est un ami à moi, enfin j'en sais qu'on est depuis des ans et il joue toujours dans mes films, qui est une personne et un personnage de grande innocence, de grande pureté, un enfant dans un corps d'homme, une montagne, non? Et c'est aussi
on sait pas trop si il est un peu innocent au sens d'un peu idiot ou si au contraire,
il est sage. Si, c'est l'archétype de l'idiot sage. C'est quelqu'un qui a dans son apparence de simplet et en train d'illuminer, d'éclairer les gens. Il est très sérieux dans son manque de sérieux.
Ces trois garçons, ces trois figures de héros qui vous permettent aussi de complexifier le récit. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même quête pour les uns et pour les autres. D'ailleurs, ils n'arriveront pas aux mêmes objectifs.
Ils ont l'impression que c'est la première fois qu'ils font quelque chose d'important dans leur vie. Ils sont conscients que c'est important ce qu'ils doivent faire. Ils ont des doutes, mais à la fin, il y a quelque chose qui les soude à cette quête, quelque chose de mystérieux. Il y a bien évidemment la présence du maître, du chir. Ce qui était important pour moi, relié à la nature, c'était surtout de montrer, de faire sentir à les spectateurs une sensation de voyage. Il y a une musicalité des pas dans le film, les pas sur la neige, les pas sur le sable, sur la pierre. On expérimente un peu ce voyage. Il y a on sent de l'humidité, on sent de la chaleur. Je pense qu'un des problèmes aujourd'hui de nous comme gens, voilà, quand on est dissocié dans une vie urbaine, c'est que quand on est dans la nature, on n'est pas tellement dans la nature, on n'est pas là. On est dans notre tête beaucoup, on est dans toute notre monde intérieur qui est trop fertile. Enfin, il est trop abondant. Donc, le travail est plutôt de dépouillement et c'est ça qu'un voyage...
Dépouillement dans le désert,
voilà, d'être
face à ce
là,
paysage.
D'être là, de se sentir dans les lieux.
De redescendre dans son corps.
Exactement.
Il y a cette expérience...
D'être pas dans la dualité avec la nature, d'être pas en dissociation avec la nature, d'être une partie plus de la nature.
Alors ce sont de jeunes héros, ils ont aussi cet âge de l'expérience, mais ils ne sont pas non plus très très jeunes, donc c'est une sorte de voyage initiatique et on imagine qu'après, la vie sera différente, que des choix auront été faits pour ceux qui auront la chance de continuer à vivre.
Quand tu prends le chemin difficile, quand tu prends le chemin compliqué, toujours le prix, enfin le cadeau est grand. Il faut toujours prendre le chemin compliqué, c'est le plus fertile.
Alors le chemin, il mène aussi à des rencontres. Ils sont trois, mais il va y avoir des rencontres, de même que vous aussi, Stéphanie Jiquel, vous allez avoir un certain nombre de rencontres. Il y a les bonnes et les mauvaises rencontres. Vous avez plutôt fait des bonnes rencontres lors de votre voyage?
Oui, en fait, on est passé par le pôle sud, donc on est arrivé le 23 décembre à 18h, le 23 décembre 2014, au pôle sud géographique. Au pôle sud, il y a une base scientifique, la base Amundsen Scott.
Alors, racontez-nous ces drapeaux.
Alors, il y a effectivement 12 drapeaux qui sont plantés au niveau du pôle sud géographique. Ce sont les 12 pays signataires du traité de l'Antarctique en 1959, qui avaient pour vocation de faire taire les revendications territoriales. Donc, l'Antarctique est un continent qui n'appartient à personne. Et au pôle sud géographique, j'ai eu la chance de rencontrer Frédéric Dion.
Alors écoutez, on va l'entendre.
Bravo. Merci.
merci.
Bienvenue au pôle.
Voilà, ils sont partis. 1130 km, est-ce qu'ils s'en vont? C'est mes héros du jour, de la semaine, puis du mois. Puis en fait, ça va probablement leur prendre plus qu'un mois. Incroyable, puis ils sont venus ici à ski. Je peux plus me plaindre. Je peux pas me plaindre.
Alors même en Antarctique, on fait des rencontres.
Oui, alors celle-là était totalement inespérée. À vrai dire, on savait que Frédéric Dion était sur une traversée, hein, puisqu'on est très peu à tenter ce type d'expédition en Antarctique. Mais on ne savait pas du tout qu'on arriverait au pôle Sud le même jour que lui. Donc voilà, alors, Frédéric Dion était avec une voile de traction. Il a fait une superbe traversée en solo, ce qui est extrêmement compliqué avec une voile de traction parce que effectivement, on peut chuter, on peut avoir un accident beaucoup plus facilement qu'en ski de randonnée nordique. Et quand on est seul, on peut aussi mourir d'hypothermie. Après, il est allé beaucoup plus vite. Il a rejoint la côte le 5 janvier et nous, on est arrivés le 27.
Il y a cette bizarrerie qui fait qu'on se lance un défi qui a l'air d'être totalement insolite et saugrenu. Et en réalité, plusieurs personnes ont eu la même idée. D'aller en Antarctique, de traverser l'Antarctique.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est 29 à avoir traversé l'Antarctique et c'était un très bon cru en 2014 puisqu'on est 4 à avoir réalisé une traversée la même année. Puis il y a certaines années où personne ne tente ce défi ou en tout cas il n'y a aucune réussite. Et il y a eu aussi 15 allers-retours jusqu'au pôle Sud, dont les premiers allers-retours, celui d'Amundsen et son équipe, qui a été le premier homme en 1911 à atteindre le pôle Sud géographique.
Oliver Lax, les rencontres qui se passent dans votre film se passent un peu moins bien pour la plupart. Il y a aussi les mauvaises rencontres. Le désert, c'est aussi le lieu où il n'y a pas forcément de civilisation, où il y a moins de construction humaine et où on peut retrouver tous les dangers. C'est par le son qu'on sent arriver le danger hein, dans les pas des sabots des chevaux, Oliver Lax. Sans vouloir spoiler la fin du film et raconter, il y a quand même toujours cette impression que le bruit arrive de loin et que voilà, il va falloir prendre une décision face à l'adversité.
Effectivement, il y a dans tous les parcours des caravanes de l'époque, il y avait toujours des dangers, des brigands qui étaient là, et une présence négative. De la même manière que dans le film, il y a des présences bénéfiques, il y a des gens qui aident, des entités spirituelles bénéfiques qui aident les personnages de ce film. Il y a aussi des entités spirituelles négatives ou inférieures, on va dire. Ils sont connus comme les djinns, non ? Qu'ils habitent des fois ces espaces.
Les petits génies maléfiques.
Voilà, exactement. Et comme l'intention que j'avais dans ce film, je pense que c'est une intention consciente ou inconsciente aussi dans d'autres créateurs et cinéastes, est de transmettre en image l'ineffable, ce mystère de la création. Donc j'ai voulu proposer aussi des personnages qui retrouvent il y a un personnage mystérieux qui retrouve au milieu de cette parcours, on a appelé les Métranges, qui invite les spectateurs à une certaine perplexité, une certaine inquiétude étrange, une sensation d'être face à quelque chose de mystérieux qui est là, mais qui montre qu'il y a derrière ce monde de formes matérielles et sensibles, il y a quelque chose, il y a une autre dimension.
Qui vous rattrape.
Exactement.
Stéphanie Jiquel, vous, les mauvaises rencontres, vous les avez faites plus tard, et en tout cas, il y a eu des détracteurs, des gens qui ont dit non, l'aventure n'était pas vraiment l'aventure, non, la performance n'est pas celle qui est racontée. Il y a des articles dans la presse qui disent que vous n'avez pas fait la performance que vous dites avoir faite dans l'Antarctique, on ne peut pas ne pas en parler.
Alors, je crois que effectivement, les détracteurs, ça fait partie de tous les projets d'envergure. Jean-Louis Etienne, en 86, quand il a atteint le pôle Nord, a eu aussi des détracteurs. C'était le cas de Perry et Cook. C'était le cas de René Caillé, qui a donné le nom au prix littéraire qu'a reçu le livre il y a quelques jours. Toutes ces personnes ont été critiquées. Et je pense qu'il faut, c'est un des obstacles qu'il faut accepter quand on veut réaliser quelque chose d'important. que ce soit une création d'entreprise, un exploit sportif ou bien tout autre projet d'envergure. À partir du moment où on est un tout petit peu visible, il faut accepter la critique. Et j'ai en tête une phrase que Reinhold Messner écrit dans son livre sur la traversée de l'Antarctique. Reinhold Messner était une personne extrêmement critiquée, il a été critiqué pendant toute sa carrière, et il disait « Je n'accepterai de critique que de personnes capables de réaliser ce que j'ai réalisé ». Je trouvais cette phrase extrêmement prétentieuse à l'époque quand j'ai lu son livre. Aujourd'hui, je comprends pourquoi il écrit ça.
Oliver Lacks, est-ce qu'il y a cette idée que l'homme est rattrapé par son ambition et que celui qui se croit à la hauteur d'un dieu, qui veut dépasser la nature, est toujours finalement rattrapé, soit par les autres hommes qui le jugent, soit par un destin pas toujours très heureux ?
Effectivement, elle met toujours à sa place la réalité à l'être humain. D'ailleurs, si on analyse les gens qui habitent dans la nature, dans n'importe quelle latitude du monde, dans n'importe quel continent, on se rend compte qu'ils ont les mêmes valeurs. Ils ont les mêmes relations d'humilité face à la création, de remerciement, d'acceptation des obstacles. Et d'ailleurs, c'est un peu ça qu'on a voulu montrer. Il y a des personnages qui sont plus en harmonie avec la nature dans le film, et il y en a qui sont plus en disharmonie, mais plutôt il y a de l'harmonie, il y a une douce soumission aux obstacles, au chemin. Ils sont pas en dualité avec la nature. Voilà, le chemin leur a dit qu'ils doivent transporter ce corps, et eux, que c'est des musulmans, et le sens étymologique du terme islam est de s'abandonner, de se soumettre, ils acceptent que c'est bon pour eux. Même si c'est sous la forme peut-être de dramatique ou avec des dangers, ils comprennent que pour eux, comme ils savent que la vie elle est bien écrite, elle est parfaite, pour eux ça va être bénéfique. Et donc ils s'abandonnent au chemin. Voilà, ils se donnent au chemin, ils se donnent à la montagne.
Et ce voyage, c'est à la fois le voyage réel et le voyage imaginaire. Et pour vous aussi, on a le sentiment que ce voyage est aussi concret, aussi matériel que spirituel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque étape a sa part de symbolisme. On pense à ce moment où il va falloir traverser cette gorge, il va falloir traverser l'eau. Et la nature est hostile et la nature, il va falloir trouver un moyen de la contourner ou de la traverser.
Mais effectivement, pour moi, ça a été comme le personnage. Je ne connaissais pas tellement le chemin. Secrètement, je le connaissais et ça a été une dure épreuve pour nous tous de foi, une pèlerination où on devait avoir cette foi.
Oliver Lacks, la foi, alors même si la religion est un peu partout, autant que la philosophie, on sent qu'il y a un grand syncrétisme religieux derrière ces personnages qui sont musulmans, mais qui finalement ramènent toutes les grandes figures bibliques aussi avec ces questionnements. On a l'impression que la foi qui est derrière, c'est la foi en l'art, c'est la croyance dans le cinéma.
Oui, à la fin... on parle beaucoup de spiritualité par rapport à mon film. Moi, je trouve que s'il y en a, c'est surtout dans les choix formels, dans la confiance dans les images, dans le mystère des images. Il y a une géométrie spirituelle dans le montage, il y a quelque chose de mystérieux dans les images. Moi, quand je suis dans la nature, je me rends compte que des fois, je suis en moi, je pense pas à la nature, je suis pas là. Mais en tout cas, je sens que la nature m'a pénétré. Je sens, 6 mois après, 1 an après, voilà, que j'ai envie de retourner au lieu. Je sens que le lieu m'habite. Avec les images, c'est pareil. Des fois, comme spectateur, je vois un film, je suis très critique. J'aime pas le film, ou je comprends pas quelque choix, ou j'essaye, avec ma pensée cartésienne, que c'est la pensée de tous les spectateurs d'aujourd'hui, j'essaye de trouver du sens ou d'interpréter tout. Par contre, 6 mois après, 1 an après, je sens comme le film que j'avais un peu critiqué, quand même, les images sont en moi. Et ils agissent en moi de manière épidermique. Enfin, ils m'habitent, ils ont touché mon âme. Ce qui m'a fait un peu comprendre, avec les années, que l'image est quelque chose de très mystérieuse. Et c'est quelque chose à laquelle, comme cinéaste, il faut faire confiance. Parce que le film ne cherche pas des émotions instantanées du moment. Il cherche plutôt que les images accompagnent les spectateurs pendant un temps, après la vision. On est en train de parler du côté plus ésotérique du film, enfin, relié à l'ombre, au mystérieux. Il y a aussi l'exotérique, que c'est le récit, le narratif, le littéraire. Il y a un peu l'équilibre des deux.
Il y a le récit et il y a les tableaux. Les tableaux de ces grands paysages qui sont aussi très photogéniques. Et il y a, par exemple, cette eau qui scintille, qui brille, qui ne cesse de briller sous le soleil.
Oui, bon, bien évidemment, la beauté est le premier signe qu'on a de qu'on habite un monde qui est miraculeux et que la création est étrange et mystérieuse et enfin qu'il y a une intelligence derrière, enfin il y a une mathématicité au moins. Et bon, il y a toujours un peu la peur comme cinéaste de ne pas faire des cartes postales, non? Il y a toujours cette question, qu'est-ce que c'est une belle image, non?
Et l'image qui en cache une autre, parce que derrière ce corps du maître qui s'en va dans l'eau, on a toute l'Égypte antique qui remonte.
Oui, bien évidemment, tout a une symbolie, des fois, m'échappe, bien évidemment.
Mais ne serait-ce que l'image qui fait remonter une autre image qu'on connaît.
Si, et qui est à l'intérieur de nous, beaucoup de fois, qui gratte. Quelque chose qui est à l'intérieur de nous tous, non? C'est des archétypes universels, j'insiste. Là, on a travaillé surtout d'un point de vue de l'islam, mais on est allé à l'essence, ce qui fait, et comme l'essence de toutes les traditions remonte à la même source, à la même... voilà, il y a une compréhension, globale, non? De ces... La géométrie du cœur humain, elle est pareille partout.
Stéphanie Jiquel, il y a cette quête que vous racontez, cette performance, cette volonté presque philosophique de traverser l'Antarctique, mais aussi, on a l'impression, malgré les blessures, malgré le danger de mort, un plaisir, un bonheur à être là-bas.
Ah oui, clairement. Heureusement, parce que c'est vrai que la mort, comme vous en parlez, elle est toujours à l'esprit. Hein. Quand j'ai quitté mon domicile et mes proches avant cette traversée de l'Antarctique, je n'étais pas sûre de revenir. Et ça, pour le coup, je l'avais jamais vécu sur aucune autre expédition. Donc c'est très très fort. Après, c'est vrai qu'on vit des moments exceptionnels dans la nature parce que c'est absolument magnifique. On peut avoir l'impression qu'une traversée de l'Antarctique, c'est monotone. En réalité, ça ne l'est jamais. Parce qu'on s'habitue en fait à tout ce qui nous entoure et donc on arrive à voir des détails, des différences et aucune des journées n'a été identique. La neige n'est pas la même partout, le soleil n'était pas toujours le même, les couleurs n'étaient pas toujours les mêmes et ça c'est extraordinaire alors qu'à Paris c'est vrai qu'on a tendance parfois à oublier de regarder ce qui nous entoure et je pense que ça nous permet, une telle traversée nous permet de nous émerveiller. C'est l'émerveillement je pense qui a été un des principaux éléments qui ont causer ce bonheur et ce plaisir chez moi là-bas.
La perplexité face à la nature, n'est-ce pas?
Merci. Merci à tous les deux. Je rappelle que Stéphanie et Jérémy Jiquel ont raconté leur aventure polaire dans le livre et le film Across Antarctica. Pardon. Et quant au film Mimosa, La Voix de l'Atlas, réalisé par Oliver Lax, il sort en salle mercredi.
France Culture, la grande table d'été, Maïlys Besseri.
Et c'est l'heure de notre pause musicale. Nous écoutons aujourd'hui le groupe Italian Boyfriend. La chanson s'appelle The Beat et l'album Facing the Wave. C'était le groupe Italian Boyfriend. Leur album Facing the Waves est disponible dès aujourd'hui dans les bacs. Et c'est l'heure de la deuxième partie de la Grande Table, le portrait de Jonathan Galassi. Jonathan Galassi est le président des prestigieuses éditions new-yorkaises Farrar, Strauss et Giroux. Il est aussi traducteur et poète. Il vient d'écrire son premier roman, Muse, publié aux éditions Fayard. Nous l'avons rencontré lors de son passage à Paris pour un portrait peu avant l'été que la Grande Table donne aujourd'hui à entendre. Jonathan Galassi, bonjour.
Bonjour madame.
Vous vous définissez vous-même non pas comme un auteur qui est aussi éditeur, mais plutôt comme un éditeur qui est aussi un auteur.
Oui, that's how I would define myself. I've always
C'est
been
comme
an
ça que je
me définirais.
Oui, j'ai toujours été éditeur. J'adore travailler avec des écrivains.
At a certain advanced age, I decided that
Mais
I
maintenant que
give
j'ai les cheveux assez grisonnants, je me suis lancé le défi d'un roman. J'ai déjà écrit de la poésie, j'ai fait quelques traductions aussi, mais là, c'est une entreprise complètement différente dans laquelle je voulais me lancer et que je voulais m'administrer.
Est-ce que ça a été une source de tension toute votre vie, que celle de l'écriture et de l'édition, de ces deux métiers peut-être, d'auteur et d'écrivain?
I think the thing that's important for trying to write is to give yourself
Ce qui est important lorsque l'on essaye d'écrire, c'est de s'autoriser à pénétrer dans le très fond de sa conscience. Et pour y parvenir, il faut éviter d'être critique. Donc il faut s'affranchir de sa nature critique pour être créatif en tant qu'écrivain. C'est ça le plus grand défi.
Alors, vous venez d'écrire votre premier roman. Et ce roman, ça aurait pu être aussi des mémoires, ça aurait pu être écrit sous une autre forme, de chronique, mais vous avez décidé d'en faire une fiction, Jonathan Galassi.
My book is in some ways a memoir, an elegy for a kind of publishing that doesn't exist anymore,
a more personal, une sorte de nostalgie, nostalgie pour une forme d'édition qui n'existe plus.
Chose to
promote a certain Je raconte une époque où certains individus essayaient de promouvoir une certaine forme de littérature d'une certaine façon. Aujourd'hui, le monde de l'édition a changé. Évidemment, les choses sont bien plus commerciales. Donc, ce livre exprime cela, mais c'est aussi un roman de jeunesse, de construction. C'est une espèce de vengeance parce que les poètes ne sont pas couronnée de succès. Le personnage principal est une poétesse et elle est l'écrivaine la plus renommée de succès de son époque, ce qui n'est évidemment pas le reflet de la réalité. J'essaye de porter là une petite pique, une sorte de vengeance.
Vous faites partie des éditeurs importants du monde new-yorkais, de cette grande maison d'édition qui est FSG. Comment est-ce que vous avez justement essayé de travailler sur cette peinture sociale que vous nous faites de ce monde de l'édition que vous avez quand même décidé de mettre en fiction, Jonathan Galassi?
Well, FSG is a small house
FSG, Farrar, Strauss et Giroux, c'est une petite maison d'édition. Mais qui a publié des écrivains assez importants. Mais c'est une petite maison, FSG. D'une certaine façon, on peut dire que c'est la dernière chose qui reste de cette démarche d'édition que j'essaye de dépeindre.
I did it out of a kind of desire of love for
J'éprouve évidemment de l'amour pour un certain nombre de héros de mon passé et j'ai voulu qu'on se souvienne d'eux et qu'on se souvienne de leur humour. Voilà des gens un peu étranges, hyperboliques, de grosses personnalités souvent.
Dans Muse, il y a ce personnage de Paul qui est un éditeur passionné et avant tout qui met en avant cette question du lecteur. La lecture, un éditeur, c'est avant tout un lecteur et peut-être un écrivain dans sa manière de lire le livre.
Paul is someone who's been in the same position that I
Paul occupe un poste que j'ai bien connu. Ne disons pas que Paul est un personnage autobiographique, mais il a un certain nombre d'expériences que j'ai vécues moi-même. De par sa nature, Paul est un admirateur. Il admire deux grands éditeurs. Il est ami avec l'un et travaille avec l'autre. Ces deux éditeurs, qui sont des personnages tutélaires, se détestent. Lui, il est pris entre les deux. Par ailleurs, il adore de grands écrivains comme Ida Perkins, son idole, que les deux éditeurs veulent publier.
Ida Perkins,
c'est la muse de Muse. Ida Perkins, c'est la grande poétesse de sa génération. C'est une rock star en quelque sorte. Elle a de très nombreux lecteurs. Elle est très attirante, sexy, tout à fait admirable et distante. C'est quelqu'un que tout un chacun veut connaître de près, mais évidemment, elle est assez élusive.
Et donc, pour un éditeur, cette question de la lecture, de sentir dans la lecture ce que fait l'écriture et ce qui mérite d'être publié, c'est cette question-là que vous abordez à travers le personnage de Paul.
Yes, Paul is someone who whose passion is admiration.
Paul Dukac.
And his admiration, as he learns in the course of the book, is perhaps a little
vit de l'admiration. Parfois, il fait preuve de naïveté. Comme je vous l'ai dit, c'est un roman de construction, donc il vit. C'est un processus au cours duquel il vit une illusion perdue. C'est un idéaliste, c'est quelqu'un qui admire, qui aime la littérature.
Alors pour vous, Jonathan Galassi, quand est-ce qu'elle est apparue l'écriture en tant que telle? Est-ce que vous avez été longtemps un lecteur et puis à un moment donné un traducteur et un écrivain? Ou est-ce que l'écriture a secrètement toujours fait partie de votre vie, en dehors de votre travail?
Well, as a teenager, I started out as a writer of poetry.
J'écrivais de la poésie. J'ai toujours écrit de la poésie. Du reste, j'ai publié quelques ouvrages et j'ai eu le plaisir de traduire quelques poètes italiens. En réalité, je crois que je manquais de foi au début. Je n'avais pas la foi en moi. Je ne voyais pas la fiction comme quelque chose de possible pour moi. Mais en me lançant ce défi d'écriture aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est un grand plaisir. Et du reste, je me suis lancé dans l'écriture d'un deuxième roman.
Comment est-ce que vous avez expérimenté toutes ces formes d'écriture à travers ce qu'on appelle l'editing, la réécriture des éditeurs, à travers la poésie que vous écrivez vous en tant qu'auteur, la fiction à travers ce premier roman, mais aussi l'écriture de la traduction, puisque vous avez traduit de la poésie italienne?
The book has many different kinds of writing in it.
Il y a plusieurs types d'écriture dans ce livre. Vous posez une question fort judicieuse.
Writing and editing are such
l'écriture
absolutely
et le travail de l'éditeur sont deux activités très distinctes. On peut regarder les écrivains à écrire, on peut les aider à améliorer leur manuscrit, mais lorsque l'on prend soi-même le stylo et on se retrouve face à une page blanche, et on sent que c'est un grand défi. Moi, j'ai décidé d'écrire un roman à propos d'une poétesse. J'ai intégré ses poèmes dans le roman parce que je voulais intégrer cet aspect de l'écriture, la poésie, que j'aime tant. Et le fait d'écrire des poèmes pour quelqu'un d'autre, je dois dire que c'est un fantasme tout à fait excitant. Mais il y a plusieurs niveaux d'écriture. Il y a la narration historique, il y a le récit, il y a du suspense, il y a de la poésie. Il y a dans ce livre un mélange d'écriture, comme vous dites en français. Ainsi, Muse est une sorte de mélange.
Jonathan Galassi, ici à Paris et en France, quand on lit votre roman Muse, on découvre une peinture du milieu de l'édition new-yorkais, peut-être pas si connue que ça non plus aux États-Unis, en tout cas absolument ignorée en France. Et on sent qu'il y a eu, chez vous, l'envie d'en faire une sorte de chronique.
Publishing in New York in those days was very much like French publishing. It was patronal.
New York était similaire à la situation en France. C'était de petites maisons d'édition gérées par des hommes généralement qui avaient des points de vue très marqués sur ce qu'ils voulaient promouvoir et sur la façon dont ils voulaient s'amuser avec leurs investissements. L'édition à New York s'est devenue plus commerciale. Il y a eu une consolidation du secteur. Donc les deux systèmes sont assez similaires et il y a toujours eu beaucoup d'échanges, d'amitié entre le monde de l'édition français et le monde américain de l'édition. Donc l'histoire que je raconte dans Muse n'est guère éloignée de ce qu'elle pourrait être en France. Du reste, c'est Balzac qui a écrit le premier roman à propos de l'édition. Donc les éditeurs français étaient bien en avance sur les éditeurs britanniques au 19e siècle.
Ce que vous décrivez, c'est un tout petit monde, un tout petit univers centré autour de la littérature et avec ses références, puisque vous utilisez beaucoup de références à l'Antiquité, on sent que c'est votre culture classique et peut-être votre amour aussi de la langue italienne qui vous a ramené peut-être dans vos études à ces références à l'Antiquité. En tout cas, on a l'impression que c'est à la fois l'Europe à travers ses références et l'Europe à travers cette idée que New York ressemblerait plus à l'Europe qu'aux États-Unis.
I think it's true that New York is somewhere in between, halfway across the Atlantic
New York
between
est Europe and, mi-chemin and the rest of America entre l'Europe et le reste des États-Unis.
I think that the book refers back to a more centralized
fait référence à une culture plus classique que celle qui prévaut aujourd'hui. Encore une fois, c'est de la nostalgie. Il y a un charme que je convoque. C'était un univers où il y avait de nombreux lecteurs qui étaient des gens de tous les jours. Il y avait un consensus sur les choses importantes dans le domaine de la culture en général et de la littérature en particulier. Les choses ont beaucoup changé depuis, donc je suis assez nostalgique dans mon récit. Je regrette un petit peu cette culture qui est plus unifiée, beaucoup moins hétérodoxe et contestée qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Vous vous amusez à toujours citer la mythologie et l'Antiquité comme arrière-fond, comme pour prendre du recul vis-à-vis de ce tout petit monde new-yorkais de l'édition.
The book uses mythology as a kind of
puise dans la mythologie car c'est un moyen humoristique que j'emploie. Les personnages ont des noms grecs et j'essaye de faire montre d'ironie, j'essaye d'indiquer une base mythique pour le récit. En réalité, je ne fais que m'amuser avec le passé. Et par extension, évidemment, je tâche de m'amuser avec le présent. Et bien souvent, le présent n'est pas à la hauteur du passé. Du moins, c'est ce que j'essaie d'écrire dans l'univers que je dépeins. Le présent est bien moins sympathique que l'univers que je dépeins.
Comment est-ce que vous avez procédé d'un point de vue presque pratique dans votre écriture, pour à la fois être précis et faire le récit de votre métier d'éditeur et de votre vécu en tant qu'éditeur, et en même temps, pour vous éloigner de ça et expérimenter cette écriture romanesque. Jonathan Galassi.
I'm not sure I know how to say how I did that.
Comment y suis-je parvenu? Je ne sais pas trop. Ça s'est produit comme ça. Il m'apparaît que lorsque l'on écrit, il faut s'affranchir de ses inhibitions et c'est alors que l'on découvre ce que l'on veut dire. Ce n'est qu'en écrivant qu'on voit les choses surgir. Le fait de raconter une histoire avec un récit construit helped me to center the book on the ideas centrer le livre sur les idées qui m'importaient le plus. Et les personnages ont quant à eux un certain humour, une certaine ironie, et cela contribue à faire passer ces idées de manière assez aisée, je pense.
La question de l'art et de la création est au centre du roman, avec d'un côté le génie qui est évoqué, des gens qui auraient comme ça ce talent littéraire inné ou acquis. Vous tranchez assez vite la question en disant peu importe, du moment que ça arrive dans l'écriture, et ceux qui viendraient accoucher ces génies, ou au moins savoir saisir leur objet dans leur texte.
I don't know whether I can identify the sources
je ne suis pas
of my,
certain de pouvoir identifier
of my, the love for writing that I,
les
try
sources
to,
de mon amour
the
pour l'écriture.
I think that writers are people with,
je crois
with
que les écrivains
faults, faiblesses,
sont des gens qui ont de fausses
they're
faiblesses.
Very, very, charming individuals,
ce
but
sont
they're also
des gens
children in a way.
Charmants. Ce sont des enfants, bien souvent.
And publishers think of themselves
et
as
les éditeurs
manipulating these people and
pensent
moving
qu'ils
them around.
Peuvent manipuler ces gens, les faire aller ici
but they're,
ou
they're
là.
Of course children themselves
mais
too.
Les éditeurs
so
sont des enfants,
the comedy
eux aussi.
Of,
donc nous sommes confrontés à
disappointed
une
love,
comédie idéale. L'amour déçu. Et ça, c'est un thème assez universel et ça fonctionne dans cet univers-là aussi.
La relation que vous évoquez entre les éditeurs et leurs auteurs, avec cette relation parfois d'admiration, d'idolâtrie pour ces auteurs, ces icônes littéraires, et en même temps cette relation aussi un peu intéressée, commerciale, technique, vous décrivez quelque chose de l'accompagnement de la création artistique.
Yes, it's the that paradox of love.
Oui,
and,
il y a le paradoxe de
selling,
l'amour
is,
et du commerce.
Is what happened, the commercialization of passion.
La commercialisation
is what,
de la passion.
What, is the joke of,
c'est ça,
of the of
qui
the
est
book.
I think toute that, l'ironie que j'essaie de décrire dans le livre.
Love does not exist in a vacuum.
L'amour ne peut exister seul dans un vide. L'amour a besoin d'un contexte et dans mon livre, Paul Dukac apprend que son amour est quelque peu puéril et il comprend que ses idoles ne sont pas du domaine de l'idéal et c'est ainsi qu'il gagne en maturité.
Et pourtant on a l'impression d'un monde parallèle entre les créateurs et les éditeurs. Il y a quelque chose, ils se rencontrent assez peu, finalement.
Oui,
c'est vrai, parce que les créateurs sont en quelque sorte des dieux, et les éditeurs ne sont pas des dieux. Là où ils se retrouvent, c'est au moment de l'acceptation de la manipulation. Mais la création demeure la chose qui prévaut tout de même. Dans Muse, Paul apprend que son amour pour son écrivaine chérie, Ida, donc cet amour lui montre que le travail de l'écriture prévaut et bien au-delà des contingences du quotidien.
Jonathan Galassi, alors que vous dites vous-même que c'est un univers masculin d'hommes qui régissait le monde de l'édition, les femmes, les personnages féminins ont un rôle très très important dans votre livre, comme justement des personnages de déesses ou des personnages qui vont permettre la création ou qui vont inspirer la création.
The world that I describe historically was a
l'univers
world
que je décris était un monde masculin. Ce n'est plus le cas, je crois. Mais il y a un monde revanchiste que je décris. Et dans ce monde, Ida est totalement libre. Elle n'est pas liée à quelque convention que ce soit. Elle n'est pas obligée de faire quoi que ce soit parce que des hommes lui disent de le faire. Elle est bien tout le contraire. Elle est autonome, Ida. Elle va de l'avant comme bon lui semble. Elle représente un idéal de réussite artistique et de liberté artistique qui s'apparente à une déesse, comme vous le dites. Il y a de l'ironie dans ce livre parce que la muse, Ida, a une muse elle-même. Mais bon, ça c'est un des secrets, on ne va pas aller plus loin. Et il y a pratiquement quelque chose de non humain quant à ses pouvoirs que vous avez évoqués. Mais le lecteur se rend compte qu'il y a un certain sacrifice auquel il faut se livrer. Il faut sacrifier sa vie privée, son intimité. Et lorsqu'on arrive dans le monde intérieur d'Ida, on s'aperçoit qu'il y a d'autres ressorts.
On a l'impression, Jonathan Ganassi, que vous vous êtes beaucoup amusé en écrivant ce roman et que vous avez expérimenté peut-être beaucoup de choses que vous avez aimées, vous, en tant que lecteur et en tant qu'éditeur, à savoir des procédés littéraires de mise en abîme ou de personnages qui mènent à d'autres personnages, de biographie dans la biographie, de jeux de miroir, et jusqu'à ce twist final, cette résolution un peu de l'intrigue. Est-ce que vous avez justement écrit un livre par plaisir, peut-être au-delà de l'ambition, plutôt du plaisir, parce que c'est un livre qui arrive à un âge de maturité?
I certainly loved writing the book.
Sans aucun doute, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre.
And I gave into that,
et j'ai succombé à cette tentation. Les romans sont un petit peu comme des essais. Le roman, c'est une forme qui emploie la fiction et c'est une forme qui permet de tester des idées. Ça permet d'évoquer des croyances, des convictions. On peut critiquer la réalité par le truchement de la fiction et de l'emploi des personnages. C'est une façon assez libre d'exprimer ses idées quant au monde qui nous entoure, et ça, je dois dire que c'est une grande source de plaisir pour moi.
Comment est-ce que vous pourriez comparer cette expérience-là du roman et de cette écriture avec la poésie? Vous écrivez de la poésie depuis très longtemps, vous la traduisez aussi, vous avez traduit le prix Nobel Eugenio Montale. Quelles sont les différences d'écriture et peut-être même de sensations d'écriture?
I don't think that poetry is a way of writing essays.
La poésie n'est pas un moyen d'exprimer des opinions. La poésie porte sur quelque chose de bien plus fondamental. La poésie, ça permet d'éprouver, de s'éprouver soi-même par rapport à la page blanche. La page blanche, comme dit Mallarmé, c'est beaucoup plus difficile. C'est bien plus fondamental, essentiel.
I think in writing poetry,
lorsque l'on écrit de la poésie, je crois qu'il faut défaire du quotidien qui est la matière même de la fiction, du roman. Et dans la poésie, il faut se confronter à soi-même. La traduction, quant à elle, permet d'y parvenir, mais par l'intermédiaire du travail d'un autre. C'est une sorte de transfert. Donc, la traduction de poésie reste de la poésie, mais par le vecteur du travail d'un autre. Et toute la difficulté, c'est de rester fidèle à la compréhension que l'on se fait du travail de l'autre, tout en créant quelque chose soi-même. C'est une troisième sorte d'écriture, vous voyez. Il y a l'essai, il y a la fiction, il y a le test existentiel qu'est la poésie, et il y a également le travail de collaboration qu'est celui de la traduction. Il y a donc quatre moyens d'écrire. Et les sources, les origines sont différentes. On puise dans des aspects de soi-même qui sont des aspects différents.
Jonathan Ganassi, il y a cette question de la langue. Vous êtes anglophone, mais aussi d'origine italienne, mais ayant appris l'italien comme une langue étrangère. Avec ce rapport à l'écriture du traducteur et de ce passeur d'une langue à l'autre, vous avez écrit bien sûr votre livre dans un anglais américain. Quel rapport vous entretenez avec l'anglais américain, justement ?
I, of course, grew up speaking. I love the way the French refer to American English as American. I love that.
J'aime bien quand les Français disent que l'anglais américain est de l'américain. On dit que c'est un livre traduit de l'anglais entre parenthèses américain. Je crois que c'est une façon tout à fait perspicace de voir la chose. Bref, j'ai grandi, moi, en parlant américain, puis j'ai appris le français, le latin, le grec, puis l'italien. Et je crois que le fait d'avoir exposé à tous ces états d'esprit différents, ça m'a permis de me former et ça a formé mon rapport au langage. Dans chaque histoire, on peut faire un sondage, on peut sonder chaque mot et dans chaque mot, on forme sa conscience. Presque de manière inconsciente. Et ça, c'est très important et c'est très riche que d'être exposé à plusieurs cultures et à plusieurs langues. Et c'est bien plus vrai en Europe qu'aux États-Unis. On est donc confronté à une autre culture, à un autre état d'esprit. C'est très enrichissant. Et en même temps, l'américain, comme vous dites, l'américain, c'est une langue très souple, très élastique. C'est une langue qui permet au locuteur ou à l'écrivain de s'affranchir, d'écrire sans trop d'embâge ou d'obstacles. Et je suis ravi de pouvoir écrire en américain.
Ce titre de Muse, il résonne particulièrement ici en France parce qu'il y a un autre roman qui s'appelle Muse en français et uniquement en français. C'est un roman de Joseph O'Connor qui raconte l'histoire de Sing et de Molly Holgold, du dramaturge irlandais et de sa muse. Dans votre roman, Jonathan Galassi, votre muse, elle est à la fois source d'inspiration et inspirée par une autre muse.
Yes, I think the word muse, of course, has a great classical
source. Oui, le mot muse est enraciné dans un fort classicisme.
I think it represents the power of art.
Le mot muse représente le pouvoir de l'art dans la vie des gens. Ida Perkins
représente
l'esprit de la littérature, en quelque sorte. Et il n'est guère étonnant que ce titre plaise à d'autres. Ce titre muse n'est guère original. Henry James, lui, a écrit la muse tragique. La muse, c'est bien souvent l'idée qu'on se fait d'une comédienne, d'une actrice. Il en va de même pour des poétesses ou d'autres artistes. Muse représente quelque chose d'irréductible. Notre culture moderne ne peut pas reproduire cela. Il faut aller chercher au-dehors du monde prosaïque, commercial. La muse, c'est l'élément essentiel qui est le complément indispensable de notre univers prosaïque.
Jonathan Galassi, dans ce roman, vous racontez le lien central dans l'écriture, entre le matériel et le spirituel. Il y a le livre, l'objet, que vous décrivez à travers le personnage de Paul, presque de manière fétichiste, l'odeur, la reliure, la colle, etc. Et puis, il y a l'entreprise de l'écriture.
Yes, that you're right, that books are the physical...
Oui, vous avez raison. Le livre, c'est un objet physique qui capture, qui saisit l'émanation spirituelle qu'est l'écriture. Et cette écriture, il faut bien la mettre quelque part. Aujourd'hui, bien entendu, dans notre monde numérique, on retrouve l'écriture dans le cloud, et l'existence virtuelle à l'écriture. Mais moi, je crois toujours au livre objet, car c'est le lieu où l'on peut retrouver l'émanation spirituelle de l'écriture. Et l'odeur d'un livre représente pratiquement Le reste de l'écriture, c'est pratiquement érotique, l'éroticisme du livre. Cela explique la relation physique que l'on peut avoir à un élément de création qui, lui, est de l'ordre du spirituel.
On est vraiment dans le fétichisme, alors.
Oui, I'm afraid so. Aren't we all?
J'en ai bien peur, mais on en est tous là, non?
Merci beaucoup, Jonathan Galassi.
Merci à vous.
Je rappelle que votre roman Muse paraîtra le 31 août aux éditions Fayard. Rendez-vous demain pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui était préparée par Thibaut Becchini, Julien Rosa, Justine Richard et Alexandra Madoyan. À la réalisation, Anna El Fakir, à la technique, Étienne Leroy et Pierrick Monsigny. La lecture d'un extrait du roman par Jonathan Galassi est disponible en VO sur le site de la grande table d'été. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.